Et avec moi autour de la table aujourd'hui, mes camarades Pierre Benetti, critique littéraire, bonjour.
Bonjour.
Johan Farber, éditeur essayiste et critique littéraire, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
On était assis collés l'un contre l'autre sur le bord du lit, chez elle. La télé dans le séjour m'a paru plus forte que précédemment. Elle s'est serrée contre moi et elle a dit « je t'aime ». J'ai dit « moi aussi, je t'aime ». Et on riait et on se serrait dans les bras et j'embrassais la larme que je vis rouler au coin de sa paupière. Moi aussi, je l'aime. On s'aime depuis qu'on a 14 ans. Ensuite, elle est partie à Langevin où il y a les bacs pro plutôt pour meufs. Et moi, j'ai retapé parce que je voulais partir en électrothèque, mais ces bâtards du conseil de classe ont commencé direct à me mettre des bâtons dans les roues, rapport à ce projet de carrière, comme quoi l'assiduité laissait à désirer, ainsi que mes résultats en sciences. Et derrière de me dire, tu sais, le redoublement, c'est une chance, blabla. Si on fait ça, c'est qu'on croit en tes capacités. Ou alors, si tu veux, il y a de la place en métier de la sécurité. Jamais de la vie, je vais en sécurité. Pour être le noir qui va faire le pied de grue à H&M pendant 40 ans en fouillant les sacs des gamines, tandis que les blancs vont aller voter Bardella ou Zemmour dans les forces de l'ordre avant de nous tirer dans la tête à bout portant, on connaît la chanson. Bref, j'ai redoublé. Et l'année d'après, j'ai réussi à aller en électrothèque, mais pas à V, à l'autre bout du département. Une zone où il n'y a que des blancs d'ailleurs. Dont Bobby, c'est là qu'on s'est connus.
On l'a compris, Blaise et Jen sont amoureux, mais très vite après cette introduction, Jen annonce à Blaise qu'elle est enceinte. Comment faire quand on est lycéen et sans ressources, sans avenir, comme on dit, pour financer une vie de famille? Blaise va accepter d'exécuter un contrat, comprendre un assassinat commandité par un trafiquant de drogue, et les ennuis commencent évidemment. Septième roman de Fanny Taillandier, Sicario Bébé, est un polar social, un récit d'une échappée en mode thriller et un regard empathique sur une jeunesse oubliée, mais à la pulsion de vie chevillée au corps. Pierre Benetti.
Moi, j'ai trouvé ce roman extrêmement réjouissant parce que justement, vous disiez que ces deux jeunes gens étaient privés d'avenir. Ils s'en inventent un, ils déjouent tous les deux leurs conditions d'existence. Et Fanny Taillandier, je trouve qu'elle parvient à quelque chose d'assez étonnant, c'est que on a d'un côté un jeu sur les codes d'un genre, le thriller, le film de braquage, des choses comme ça. Et dans le même temps, c'est un thriller qui s'écrit dans la langue des personnages, qui est une langue, on vient un peu de l'entendre, qui est un mixte entre eux. On sent une langue venue de l'école, de la lecture. Alors notamment Jen, c'est une lectrice, une grande lectrice de poésie. Et dans le même temps, eh ben il y a un argot contemporain, il y a la nouvelle langue française qui se déploie tout au long du livre. Et ça marche très très bien. Donc on suit les deux. Peut-être qu'à un moment, l'action s'étiole un petit peu au cours du récit, parce que c'est un livre très dense, c'est très court finalement, c'est moins de 200 pages. J'ai eu l'impression de lire quand même quelque chose qui me remplissait, mais c'est plutôt la langue des personnages qui remplit le livre, disons.
Johan Farber.
Oh bah moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très grande réussite. C'est même un des livres que je trouve le plus marquant de ces dernières années, parce que effectivement, comme le disait Pierre, c'est à la fois un polar marxiste, puisque effectivement, ils veulent garder cet enfant. C'est tout le début qu'on vient d'entendre. Ils veulent garder cet enfant, mais en fait, les conditions sociales en France du capitalisme tardif que nous vivons font qu'ils ne peuvent pas le garder parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et à partir de là, on se retrouve vraiment dans le schéma du polar, c'est-à-dire avec des êtres innocents et victimes d'un système qu'ils vont devoir combattre. Et il y a une sorte de déterminisme inversé, parce que c'est vraiment prodigieusement à la fois intelligent et sensible. On a dans ce déterminisme inversé, pour s'en sortir, il faut sombrer dans la délinquance. Et c'est une délinquance dans laquelle les personnages ne veulent pas sombrer. Et à partir de là, c'est un thriller pacifiste. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas commettre de crimes, alors que c'est la structure sociale qui vous pousse au crime. Et effectivement, on a là vraiment à la fois un roman extrêmement fort politiquement, mais aussi dans le même temps un objet sensible, c'est-à-dire c'est pas du tout un roman idéologique, absolument pas. C'est un roman qui se saisit, comme le disait très bien Pierre, des codes du polar, et c'est ce que fait à chaque fois Fanny Taillandier. Ça fait partie d'un cycle qu'elle appelle Les Empires, et qu'elle écrit depuis bientôt une quinzaine d'années, où il y a à chaque fois deux fils qu'elle tire, un fil générique, c'est-à-dire interroger un genre, et un fil en fait politique. Ici, la question, c'est celle, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir quand on est jeune et qu'on ne peut toucher en fait fait aucune aide.
Alors je voudrais bien revenir sur le langage. Il peut y avoir un véritable piège quand on est romancier à vouloir s'emparer d'un langage qui n'est pas forcément le sien. Il peut y avoir le risque d'avoir cette position comme ça dominante. C'est pas le cas dans ce livre-là.
Mais non, c'est vrai que c'est une gageure un peu de. Enfin, c'est un challenge de représenter cette langue sans la réduire à du folklore ou à faire l'écrivaine qui écrit comme les jeunes. Enfin, c'est déjà un peu has-been de dire cette expression-là, écrire comme les jeunes, ou de la regarder et de l'écouter d'en haut. Je trouve que ça marche très très bien, ça tient à des détails insérés dans la narration, des tournures de phrases, des choix de vocabulaire. Bon, c'est du travail un petit peu de précision, enfin je sais pas comment mieux expliquer ça, c'est une attention soutenue à ce que ces personnages, disons, parle comme il devrait parler dans la réalité sociale qui est la leur. Et donc, c'est jamais un point de vue d'en haut. Il y a une finesse quand même aussi sur quelque chose, c'est qu'on voit bien que la langue de Jen et la langue, donc la jeune fille, et la langue de Blaise, le jeune garçon, est pas exactement la même. On voit qu'il y en a une qui est bien plus lettrée, qui fait un peu plus attention, le passé simple, il est bien plus présent. Donc, il y a quelque chose d'assez drôle de voir à la fois Viteuf, Péta, Gova, Fonsdar, tout ça, et en même temps du passé simple. C'est assez marrant. Et ce qui est très touchant, et je tiens à dire que c'est des personnages touchants, c'est que ce ne sont pas des gros bras des caïds de cité. C'est des jeunes gens à peine sortis de l'enfance qui sont confrontés à l'âge adulte, et ça se ressent dans cette langue qui est très souvent innocente, qui est encore dans l'expérience de l'enfance, et ils sont confrontés au monde dans lequel ils vivent, c'est-à-dire où il faut produire, où il faut consommer, et si on n'y appartient pas, et ben on n'a pas beaucoup d'avenir, quoi.
Yvan Farber.
Ah ben, je suis entièrement d'accord sur ces effets de langue qui sont à la fois, comme on disait tout à l'heure, à la fois de l'intelligence et de la précision sensible, parce que en fait on ne s'attend pas à ce que les personnages parlent comme ça, parce qu'en fait on a des idées préconçues selon lesquelles ces personnages qui sont dans des cycles de lycée professionnel ne pourraient pas s'exprimer et ne pourraient pas être amoureux de la poésie. Et on voit qu'elle prend le contre-pied total de ces clichés, et tout au cours du livre, il y a, dans la parole des uns et des autres, à chaque fois des disjonctions où, par exemple, Jen cite René Char. D'un seul coup, notre existence n'est précédée d'aucun testament. Elle lit Pavèze et ça donne au livre une énergie qui est, je trouve, politiquement rare. Par exemple, quand ils arrivent chez le caïd, le Julien de la Cité des Fleurs, la première réflexion de Julien, c'est « Vous avez vu, Bernard Pivot est mort. Heureusement que ma mamie n'est plus là pour le voir. » Alors qu'on s'attend à ce que le Tony Montana ne soit absolument pas intéressé par cet événement qui est d'ailleurs strictement littéraire, voire mondain. Et là, ça produit un effet de décalage qui montre à la fois l'intelligence politique du livre et surtout sa grande empathie, sa grande générosité. Et c'est ça qui forge, je trouve, la grande puissance du livre. C'est que, certes, si on voit des décalages d'un monologue à l'autre, il y a quand même un fil continu où il y a une démocratisation. Tout le monde parle de la même façon. Tout le monde s'intéresse à la littérature. C'est un des livres les plus généreux, les plus fins. Vraiment, il faut que tout le monde le lise. C'est rare quand je dis ça, mais c'est vraiment un livre qui est d'une intelligence rare.
Pierre Benetti.
Oui, puis c'est un des rares livres, je dirais, vitalistes du moment. C'est-à-dire je sais pas mieux dire. Il y a quelque chose de purement joyeux qui se développe, de vigoureux même, mais sans que ça soit vigoureux au sens peu viriliste. Il y a une vigueur de vie. Ces deux personnes se débattent, mais pour autant, c'est pas non plus des galériens qu'on voit de manière un petit peu misérabiliste. C'est pas du tout ça. C'est vitaliste dans cette énergie de langage, dans l'action qu'ils déploient. Alors Jen, elle va essayer d'une manière ou d'une autre de se faire la complice, même si elle veut pas le devenir, de Blaise. Ce Julien, bon, il est pas, c'est pas un personnage très recommandable, mais il est quand même très attachant aussi. Il y a un humour aussi léger. Par exemple, j'ai retenu cette phrase: vous êtes relous les enfants, Annalisa, Julien. Moi, ça me fait hurler de rire. Ce genre de choses. Voilà, c'est la vitalité, et peut-être qu'à un moment, on peut se dire, la littérature, là, telle que Fanny Taillandier l'a fait, elle est tournée vers le mouvement même des êtres, et ces êtres, ils viennent des classes populaires, ils viennent des bacs pro, c'est pas vraiment des personnages qu'on voit dans les romans, et pour autant, ça devient pas non plus un roman de banlieue ou un roman de quartier populaire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle place, on a oublié de le dire, ce récit non pas dans une grande ville telle qu'on l'attendrait, les grandes barres d'immeubles, mais pas du tout, c'est une petite ville avec des champs autour, et on voit la France contemporaine scène telle qu'elle s'est transformée ces dernières années.
Oui, mais c'est vrai, c'est ce que vous, pour ça que vous parliez de romans marxistes, Johann Farber. Ce ne sont pas des jeunes qui sont en échec. C'est notre jeunesse, c'est celle qui arrive et qui devrait s'en sortir normalement.
Et qui devrait s'en sortir normalement et qui, là, en fait, est prise dans une sorte de nouvelle géopolitique du territoire français avec, ben, le livre s'ouvre sur une remarque sur, effectivement, la manière dont le trafic de drogue se répand et qui touche, effectivement, les territoires ruraux les plus reculés. Ça se termine dans une ZAD, mais la particularité à chaque fois de la géographie qui tient, en fait, à cœur à Fanny Taillandier dans chacun de ses livres, il y a une exploration géopolitique d'un territoire, sont toujours des territoires délaissés, abandonnés, mais des territoires en fait de résistance à une sorte de force néo-capitaliste ou du capitalisme tardif contre lesquels les habitants sont obligés de se révolter, non pas pour vivre, mais juste pour survivre.
Et survivre. Sicario bébé de Fanny Taillandier, apparu aux éditions Rivage.